Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Cette émission est parrainée par Radioline, l'appli aux 60 000 radios et podcasts disponibles sur les stores et depuis le site radioline.co.
Bonjour. C'est moi, Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
Salut, c'est nos ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui, malgré des racines profondément atlantiques, n'a jamais boudé son plaisir lorsqu'il s'agit d'aller clapoter du côté de la Méditerranée avant que je ne succombe à l'envie d'enquiller tous les clichés possibles à base de spaghettis, de tour de pise et de mafia, disons tout de goût, que l'émission du jour sera placée sous le signe de l'Italie puisqu'il y sera question d'un petit phénomène du moment, toute proportion gardée, qui s'appelle Jegrobot et qu'on va aborder sans plus attendre avec les trois super-héros de la critique réunis ici à l'antenne Paris, Yannick Dahan, salut Yannick, Julien Dupuis, salut Julien,
bonjour Thomas,
et David Honora, salut David.
Salut.
Allez, c'est nos ciné épisode 83 et c'est parti.
Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir.
Et avant de commencer, je voulais juste à titre personnel adresser un grand et franc merci à ma camarade Charline Roux qui m'a remplacé avec talent au pied levé au mois d'avril. Grâce lui soit rendue, vous la retrouverez tout prochainement autour de cette table, évidemment. Alors, on l'appelle Jegrobot, lo chiavamano Jegrobot en version originale, car oui, je parle toutes les langues de l'univers connu. Jegrobot, donc, c'est l'histoire d'Enzo alias Claudio Santamaria qu'on avait vu dans Romanzo Criminal et dans Casino Royale. Enzo, donc voleur à la petite semaine du côté de Rome, qui un jour, tentant d'échapper aux flics, se jette à l'eau littéralement puisqu'il plonge dans le Tibre, le fleuve romain dans lequel, figurez-vous, traînent des substances radioactives qui font, je vous le donne en mille, de lui un super-héros. Il lui donne des super-pouvoirs, il devient quasi invincible et doté d'une force surhumaine. Évidemment, il compte d'abord s'en servir pour développer ses activités de malfrat, mais le destin en décide autrement et la rencontre avec la jeune Alessia qui voit en lui l'incarnation du héros de manga Jegrobot. Il décide donc de mettre ses capacités au service du bien et de se la coller sévère avec le grand méchant du film, Fabio alias le Gitan.
Tu peux pas te dégonfler, qu'il y a des gens qui vont mourir si tu nous laisses tomber.
Je veux savoir qu'une seule chose, juste une chose, d'où vient cette force?
Moi j'ai dit déjà un film dont le méchant s'appelle Le Gitan, ça mérite le respect et l'admiration. Tout ça se fait sous la caméra de Gabriele Mainetti, dont c'est le premier long métrage si je dis pas de bêtises. Et s'il a mis 2 ans ou presque à sortir en France, le film est tout de même porté par une réputation avantageuse, notamment dû au fait qu'il a raflé pas moins de 7 récompenses au David Di Donatello, les Oscars du cinéma italien, et le prix du jury à Gérard May cette année aussi. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce Jegrobot, les amis? Moi j'ai trouvé ça imparfait mais assez réjouissant. Qui veut commencer? Julien, tiens, t'es en face de moi, ça tombe sur toi.
C'est un premier film, donc oui, forcément, c'est un peu imparfait. C'est surtout, je trouve, un film totalement enthousiasmant, extrêmement sensible. Moi, c'est ça qui m'a. C'est un film qui est très touchant. Les personnages sont extrêmement touchants, très habités. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles le film n'est pas un délire simplement de geek ou un délire postmoderne, c'est qu'il est profondément ancré dans son pays et dans ce que vivent les Italiens. Enfin, pour moi, c'est une des grandes qualités en fait du film quand on essaye d'importer une culture, parce que même si elle est fumetti. Et même si le film fait très clairement référence à la Japanimation, puisque Jegrobot, c'est un personnage de Gonaga.
C'est un personnage de manga.
Et que le personnage va tenter de plus ou moins s'identifier à Jegrobot, ça reste vraiment profondément un film italien et presque un film d'urbaniste, si j'ose dire. C'est-à-dire que le héros vient de la banlieue, d'une banlieue en plus un peu craignos, et il a un rapport très particulier avec le centre de Rome. Et bon, sans trop en dévoiler, vous verrez qu'il y a, il y a une constriction un peu miroir dans le film entre ce qui se passe dans l'ouverture du film et ce qui se passe dans la conclusion du film, et sur la façon dont le personnage se sent inclus et impliqué dans la vie romaine, basiquement, du centre de Rome. Et ça, je trouve que ça fonctionne extrêmement bien. Ça rend le film très concret. C'est pas un film qui sonne creux. Et dans tout ce qui se passe aujourd'hui autour du comics books, ça fait beaucoup de bien.
David, toi qui es un grand non-adorateur des films de super-héros, si je puis dire.
Je me demandais ce qui allait venir.
Un grand garçon, je sais pas.
Non, mais je suis d'accord avec Julien, et notamment sur le fait que le caractère italien du film est très présent, aussi esthétiquement, et ce qui, pour moi, est quand même un peu une limite dans mon appréciation du film, c'est qu'il y a quelque chose qui relève, je dirais, du... du mauvais goût italien, d'un peu l'esthétique de la raille des années Berlusconi, qui en même temps effectivement est matinée de toutes ces références extérieures qui viennent à la fois du genre, enfin à la fois du Japon et à la fois des États-Unis, un mélange autour de toute cette esthétique du super-héros, et qui est réintégrée vraiment dans un truc, dans un film de gangster à l'italienne, et qui n'a vraiment pas peur du mauvais goût. Il y a un exemple au début du film, et qui en même temps, et c'est ça que je vais essayer d'expliquer, c'est un mauvais goût qui est intégré dans des idées de cinéma. Il y a une scène au début du film où il y a un plan sur une merde de chien au milieu de la cour. Et en fait, ce plan va renvoyer un contre-champ d'un des personnages qui pense à quelque chose. On se dit à quoi lui fait penser cette merde. Et on va avoir le déroulement de toute une séquence où en fait ils vont chercher à l'aéroport des mules, des mecs qui transportent de la drogue. Et préalablement à cette séquence, il a dû récupérer tout un tas d'ingrédients et progressivement on se demande mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. En fait, pourquoi la merde a enclenché cette séquence, c'est parce qu'il s'est dit ah oui, il faut que j'aille chercher les mecs à l'aéroport, il faut que j'aille les faire chier dans un immeuble en construction, et en plus on va devoir nettoyer la merde, etc. Et donc il y a toute une séquence qui se construit petit à petit et qu'on comprend par la narration, qui, micro spoiler, n'a pas lieu parce que derrière il y a un rebondissement et on part dans la suite du film, mais qui est dans ce côté un peu glauque. Alors je rejoins complètement Julien sur l'histoire des sentiments, et on est d'autant plus étonné par le fait que ces sentiments se développent dans ce film, parce qu'on ne part pas sur des bases hyper ni romantiques ni vraiment sentimentales. Et effectivement, c'est une réussite en fait de l'import de codes du genre à une culture. Et moi, je fais le parallèle à un autre projet, pour le coup français, similaire, qui est un film qui devait avoir 2-3 ans, qui s'appelle Vincent n'a pas d'écailles, qui avait le... Non, mais faut vraiment voir les deux films pour comparer, qui avait le même budget. À peu près 1,5 million d'euros. Et c'est hallucinant.
Julien a vu donc.
J'ai vu des images simplement, mais c'est hallucinant.
D'une pauvreté absolue en termes justement d'effets spéciaux, d'idées. En fait, c'est aussi et ça a été en plus marketé et vendu comme le film de super-héros français. Donc un film
sans effets spéciaux.
Ah oui. Voilà, un peu low cost, avec en fait un mec qui tire son pouvoir de l'eau, et en fait dès qu'il est mouillé, il est hyper fort. Ce qui est une idée de base, un prémisse.
Pas plus compliqué.
Pas du tout plus convenable, et hyper marrant et avec plein de potentiel. Sauf que là où J-Robot s'en sort beaucoup mieux, c'est deux choses. C'est d'une part, à partir d'une idée à la con, essayer de la tirer dans tous les sens pour créer, pour avoir un maximum de situations intéressantes d'un point de vue cinématographique. Et dans un deuxième temps, tirer au maximum parti d'un budget qui est réduit pour que ça ait de la gueule et qu'on soit pris pendant toute la durée du film. Donc, vraiment, c'est hallucinant de comparer les deux films en sachant qu'ils ont le même budget. Et là, au-delà de toutes les histoires de mauvais goût que je décriais avant, on voit qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant avec J-Robot.
Yannick.
Moi, je suis un petit peu d'accord avec tout le monde, c'est mais super. Je vais peut-être plus
tu
passer.
Es Emmanuel Macron
non,
de cette
mais
émission.
Je vais plus pas. C'est exactement ça. Je suis d'accord sur ce qu'a dit Julien par rapport au côté très italien du film, ce qui pour le coup me permet de relativiser un petit peu ce que David n'a pas aimé dedans. C'est-à-dire, j'ai pas trouvé ça moche. J'avais l'impression justement de rentrer dans une autre culture, quelque chose que j'ai déjà vu dans un autre type de cinéma, qui m'a pas choqué. Ce qui m'a choqué au début, et il y a effectivement deux choses moi qui m'ont très inquiété, et je trouve que à mesure que le film avance, c'est presque un exploit, une prouesse de te retourner le cerveau à ce point-là. C'est effectivement au-delà du budget, hein. Parce que pour moi, au final, 1,7 million, c'est pas beaucoup, c'est impressionnant ce qu'il fait, mais je trouve que la prouesse n'est pas tant dans l'optimisation de son budget que la façon dont il raconte son histoire, parce qu'on a des films qui ont des budgets monumentaux et qui savent pas
qui
raconter
pas
une
histoire. À nous raconter.
Une histoire. Ouais, voilà, exactement. Donc, ce qui moi m'emmerdait plus au début, c'était le côté presque plus poseur. C'est pas le côté laid, c'était le côté décalé pour être décalé. J'en faisais des caisses sur mes persos. Alors, on a un bad guy qui est un peu hystérique. On a des persos un petit peu bizarres. Enfin, tout jouait le truc de... je vais te créer une espèce de truc ironique, sarcastique, un petit peu. Et j'avais peur que ce soit outrancier comme ça. Et toute la rythmique des 15 premières minutes me gavait un peu. Et plus le film avance... Alors, je crois que le film est une énorme réussite pour deux raisons. Au-delà de son utilisation des codes du film du super-héros. Ce qui était la deuxième chose qui m'emmerdait au départ, parce que moi j'en ai ras le bol des films de super-héros. Je vais être comme David.
C'est partagé,
non, mais c'est pas simplement les films de super-héros, oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, se distinguer doit être se distinguer à travers la résonance aux films de super-héros, c'est-à-dire que ça, c'est en train de phagocyter tout. C'est-à-dire on a l'impression qu'on n'a plus d'autres mythologies que des connards en collant. Bon, donc ça, c'était les choses qui me cassaient les couilles un petit peu au début, mais le film avance et réussit pour deux choses, je trouve mortelles. D'abord, c'est effectivement plus une histoire d'amour qu'un film de super-héros. Et je trouve que cette histoire d'amour, moi, je la trouve personnellement assez incroyable. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas plus casse-gueule qu'imaginer un personnage féminin fou, on peut dire, ou à moitié taré, qui a des gros problèmes psychologiques. On peut tomber dans la gaudriole, on peut tomber dans l'excès, dans le pathos, dans mille trucs. La nana qui joue ce rôle... Elle est impressionnante parce qu'elle est sur le fil du rasoir, d'une justesse absolue en permanence, la façon dont il arrive à structurer ce récit où on se dit entre cette espèce de loser et cette fucked up là qui regarde des films japonais, comment il va arriver à faire quelque chose avec ça, et chaque scène qu'il les confronte les amène petit à petit vers une émotion qui est absolument incroyable. Moi, je trouve le film bouleversant, c'est-à-dire c'est comme si le film gagnait en maturité à mesure qu'il avance. Moi, j'ai rarement vu ça sur un film d'une heure et demie. Et la deuxième raison, elle est bien évidemment liée à la façon dont il gère les codes. On le voit pas venir, c'est-à-dire on se dit au départ, bon, ok, va nous faire le classique. Là où c'est très fort, c'est que bon, le type, il lui arrive quelque chose, il se rend compte qu'il a un super pouvoir. On est dans les petites blagues par rapport au super pouvoir. On peut s'y attendre encore à ce moment-là du récit. Et puis tout d'un coup, cette histoire d'amour qui prend le pas, qui parasite la dimension mythologique du récit, à tel point qu'on en oublie qu'on cause de super-héros pour s'intéresser vraiment à ce personnage, et la façon dont à la fin il raccorde cette histoire d'amour hyper émotionnelle avec cette fois-là aucune lourdeur, mais juste 3-4 plans ultra codés, ultra iconiques du cinéma de super-héros, mais qui tombent magnifiquement. C'est-à-dire que moi, ce qui m'a tué, c'est quand même au final, en utilisant des plans qu'on a vus dans tous les Batman, tous les Spider-Man, tout ce que tu veux, on a l'impression que là, tout d'un coup, le mec, il a réussi à dire ce qui devrait être dit ou fait ressentir dans un film de super-héros. En termes de pure thématique, on a pléthore de Marvel qui sortent, où on nous dit c'est des codes, c'est des genres, et j'ai l'impression que c'est que des mecs qui ne les comprennent pas, qui font des films qui ne produisent aucune émotion, qui n'ont plus compris à force de rationaliser ce qu'était une figure mythologique. Et là, tout d'un coup, ce mec, avec trois fois rien, il te reprend les mêmes images, les mêmes codes, sauf qu'il construit un récit mortel, émotionnel, profondément humain, avec une vraie thématique qui raccorde à la thématique des super-héros et au sens profond qui signifie. Rien que pour ça, et malgré tous les petits défauts qu'il peut avoir de premier film, on est d'accord, je trouve que c'est quand même super étonnant et super agréable.
Ouais, je pense que tout ce que vous avez ressenti comme des obstacles, moi je les ai plutôt pris comme des prises de risque, et je pense que le film me donne raison. C'est-à-dire que, par exemple, pour revenir sur cette idée du mauvais goût, ce qui est formidable, c'est que oui, on peut se dire au début qu'il y a du mauvais goût, notamment sur le
fait que trimballe la chose qui est constitutif du cinéma italien, dans une certaine partie du cinéma italien.
Mais c'est surtout, pour moi, il y a une espèce de candeur, en fait. Et moi j'adore ça, moi. Quand un film se traîne dans la boue, dans la crotte, tout ça, et qu'il arrive tout à coup à te faire rejaillir un sentiment assez pur, en fait, d'une candeur folle, moi ça me fauche, en fait. J'adore ça. Et c'est pareil dans le côté grandiloquent, par exemple, du méchant là, qui a fait un petit quai Yannick au début. C'est génial la façon dont il arrive à justifier, en fait, cette prise de risque là. C'est-à-dire que avec ce personnage là du gitan, il y a tout un sous-texte très intéressant, je trouve, qui finalement n'est pas tant abordé que ça dans les films de super-héros, et pourtant Dieu sait qu'il y en a un paquet, qui est le rapport aux autres à travers les réseaux sociaux surtout. Les réseaux sociaux sont omniprésents dans le film, et c'est super super intéressant, je trouve, ce qu'il fait là-dessus et la façon dont il rebondit sur ça et sur la façon dont, par exemple, son super-héros va être récupéré par le public, va être transformé par une icône avant que lui-même croie en son statut et en son étoffe de héros. Et sur la façon dont le méchant va se constituer vis-à-vis des réseaux sociaux et vis-à-vis de sa recherche maladive de reconnaissance par le grand public. Et je trouve ça extrêmement habile, extrêmement touchant et extrêmement payant.
Et je suis d'accord avec ce que dit mais le
Julien.
Oui, pardon. Non, j'étais sur la suite.
Vous êtes vraiment rencontré.
Non, j'étais sur la suite. C'était plus par rapport au... Moi, c'est pas une question du tout de mauvais goût. Moi, ce qui m'a fait tiquer, au contraire de toi, c'est que justement, je sentais pas du tout. Je vais rebondir par rapport au personnage qu'il évoque. Je la ressentais pas du tout, cette Condor. Moi, j'étais vraiment au contraire sur une mise à distance au début. C'est-à-dire que c'était même pas le mauvais goût, la lumière. Moi,
début. Hein, y a une vraie mise à distance au début. On est
d'accord. Ah, d'accord.
C'est juste qu'il te revient encore.
Oui, c'est ça.
Je vais pas trop dire, mais on va dire pour ceux qui l'ont vu ou qui le verront plus tard. Par exemple, la scène de la fête foraine, c'est une scène très cheesy en fait, très candide. Et tout, moi, elle m'a emporté totalement. Quoi.
Ça, d'accord. Moi, quand je disais, c'était plus, j'avais peur de la caricature dans l'iconoclasme. Voilà, si tu veux. C'est-à-dire que j'avais le sentiment que ça allait être iconoclaste pour iconoclaste et que ça allait me lourder vite. Et par rapport au personnage du bad guy qui dit, ce qui est très fort, et c'est moi là où j'ai commencé vraiment à basculer.
C'est le Joker,
d'ailleurs. Voilà, c'était sur ce personnage de bad guy où on le voit hystérique, tout ce qu'on veut. Et puis, petit à petit, bam, au détour d'un dialogue, au détour d'une discussion avec quelqu'un, il va sortir un élément de son passif, un élément de son contexte, des choses qu'on ne fait plus aujourd'hui. C'est-à-dire,
ils sont incarnés.
C'est-à-dire construire une histoire et une histoire tout d'un coup. On sent qu'elle est juste par rapport à cette univers là et on se dit finalement c'est plus intéressant que ça en a l'air et c'est comme ça qu'elle se fait progressivement la bascule, elle est plutôt bien faite.
Oui, et puis, en plus là où je rejoins ce que disait Yannick, c'est que effectivement on est dans un film de super-héros et une origin story en fait, et il y a un truc que je trouve a beaucoup oublié Marvel ces dernières années, c'est que raconter une origin story c'est pas simplement raconter formellement comment il est tombé dans des bacs d'acide ou je sais pas quoi qui lui ont donné pouvoir, ce qui en soi n'a aucun intérêt, mais savoir quelle trajectoire va faire passer le personnage de son état initial à un personnage de super-vilain ou un personnage de super-héros. Et c'est toute cette trajectoire que raconte le film. C'est-à-dire qu'ils ils partent pas de l'arrivée. Et c'est vraiment cette construction qui est importante.
Et définir un héros, ce qu'est un héros,
ils ne font plus.
Oui, mais alors, définir un héros, c'est exactement ça. Sauf qu'il y a en plus un élément qui est... on s'en rappelle tous. Moi, ça m'a vraiment fait penser à District 9. Pas du tout, évidemment, en univers, en mise en scène ou tout ce que tu veux. Mais cette façon de partir d'un mec qui est quand même un connard absolu pour tout d'un coup te retourner le cerveau et en faire un véritable héros, il réussit le même postulat sur la base, cette fois, d'un personnage apathique, amorphe, qui a l'air d'être con comme ses pieds et qui, progressivement, prend conscience de grandes responsabilités, bien évidemment.
Mais il y a peut-être un truc, pour dire si on a encore le temps, c'est qu'il y a un truc qui est d'ailleurs très intéressant et je trouve qu'il ne trompe pas, c'est que le réalisateur Gabriel Mainetti, il compte pas faire Dick Robot 2. Oui. Pour lui, ce film, il se suffit à lui-même. En fait, il n'a pas abordé son film en se disant putain, je vais me créer une franchise comme ça, je pourrais faire un ou deux projets un peu risqués, puis je vais asseoir ma carrière avec ça et j'y reviendrai régulièrement. Il n'exclut pas d'en faire des suites, mais pour l'instant, il n'y réfléchit pas du tout et en tout cas, il n'a pas du tout envie de le faire. Et ça, on est totalement à l'inverse de ce qui se passe chez Marvel.
Ça pour le coup, c'est vraiment iconoclaste. Avant de se quitter, messieurs, on va prendre une poignée de minutes quand même pour les recommandations d'usage. Oui, Yannick, il y a des recommandations dans cette émission. Je vois dans ton regard la terreur. Ça peut être du cinéma italien, mais c'est pas obligé. David, est-ce que tu veux commencer? Tiens.
J'ai une idée de recommandation un peu bizarre. J'ai allumé un film français tout à l'heure.
Tu vas défendre un film français.
Je vais défendre un autre film français qui, à mon sens, récemment s'est approprié une partie des codes du cinéma de super-héros, mais pour raconter une histoire qui, a priori, n'a rien à voir. Et en fait, j'invite à découvrir le film en pensant à ce filtre-là et à essayer de le voir comme un film de super-héros. C'est Bande de filles de Céline Sciamma.
Je voyais pas du tout. Je pensais vraiment, pas du tout qu'on allait arriver là.
Cette émission, je sors du plateau.
Je vous invite vraiment.
Tu es un garçon plein de surprises.
Notamment dans la manière dont sont construits les personnages. Il y a énormément de tropes du cinéma de super-héros. La manière dont aussi certains plans iconiques sont réutilisés. Et c'est un Enfin, on peut dire plein de choses sur son cinéma, mais je pense que c'est complètement faux de l'aborder comme du cinéma naturaliste français et que c'est un cinéma très stylisé. Et donc voilà, je vous invite à regarder Bande de filles de Céline Sciamma en pensant que ça pourrait être un film de super-héros.
D'accord.
Super-héroïne.
Super-héroïne, en l'occurrence, c'est un point de vue on va dire unique en son genre, Julien.
Oui, c'est beaucoup plus basique. J'en ai peut-être deux. J'aurais pu.
Donne-moi-en une. J'ai aucune idée.
Alors, attends, partage pas avec Yannick, il se démerde.
Juste pour le film italien et film aussi sur une ville. Parce que moi, je trouve ça super intéressant, comme le cinéma, c'est l'art de l'espace aussi. Je trouve ça super intéressant, moi, quand le cinéma parle d'une ville. J'aurais pu me contenter de parler de Tsubura, de Solima, qui est un film italien.
Qu'on avait défendu
aussi, qui je trouve un film fabuleux et qui montre une nouvelle, avec ce film-là, une nouvelle vigueur, je trouve, en Italie. Mais je vais plutôt vous conseiller d'aller voir sur le Vimeo de la société de production du réalisateur, Gabriel Mainetti, parce que pour moi, c'est un mec sur qui il va falloir compter. C'est intéressant de le creuser un peu. Il y a une société de production qui s'appelle Goon, G2ON. Sur son Vimeo, il y a tous ses courts-métrages, et notamment Tiger Boys, qui est une espèce de galop d'essai pour Dig Robot.
Qui avait été primé aussi.
Voilà, nominé aux Oscars. Et c'est super intéressant, c'est l'histoire d'un petit gamin obsédé, omnubilé par un catcheur. Donc, c'est un homme de goût. Voilà, c'est gratoche, c'est sur Vimeo, et je vous le conseille chaudement.
Il n'y avait pas une deuxième recommandation?
C'était Tsubura. Voilà.
Oui, du coup, c'était Tsubura. Désolé, Yannick.
Il n'y a pas besoin de recommandation de ma part.
Je voulais juste dire un petit truc, justement, rebondir sur la ville. Un des points dont on n'a pas parlé, mais il utilise effectivement très bien ce qu'il y a d'iconique dans la ville de Rome. Et notamment, il y a
Tibre, déjà.
Le Tibre, il y a la scène finale sur le Colisée. Et il y a un des trucs qui est extrêmement casse-gueule et qui est, je trouvais, assez réussi dans le film, c'est de faire une scène lors d'un match qui oppose la Roma et la Lazio.
Et en ça fait, m'a étonné que tu n'en parles pas.
C'est intéressant parce que ça apporte quelque chose en termes de production value, et en même temps c'est hyper casse-gueule, c'est-à-dire d'essayer de faire une scène qui se passe pendant un match, donc qui est extrêmement compliqué à tourner, et en même temps ça apporte quelque chose de sensationnel et vraiment de spécifique au pays.
Tourner avec des plans volés,
voilà.
Quasiment exclusivement.
Yannick, je t'ai pas oublié.
Non, je n'ai aucune. Il parle du Colisée, alors je vais recommander La Fureur du Dragon, mais à part ça, je peux rien te dire de plus, si tu veux. J'ai rien en tête, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse ?
C'est pas grave, ce sera pour la prochaine émission. Tant pis, je rappelle que Jig Robot, donc, c'est au cinéma en ce moment. Notre temps est écoulé. Merci à tous les trois. Merci à Clément, à la technique. Merci à l'Antenne Paris pour l'accueil. Rendez-vous sur nosciné.com pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement en public si vous voulez venir nous voir. Info à retrouver aussi sur Binge pour Audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio. Si vous nous écoutez via iTunes, n'hésitez pas à aller sur la page dédié à ce podcast, à lui laisser une bonne note si ça n'est pas déjà fait. On vous le rendra bien, c'est promis. Et en attendant tout ça, on vous dit à très vite.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.